troisième individu survint et retira d'un grand sac noir une paire de bottes vernies splendides. Pendant que Frédéric les essayait, le bottier observait narquoisement la chaussure du provincial. « Monsieur n'a besoin de rien ?»«
Merci, »
répliqua Leclerc, en rentrant sous sa chaise ses vieux souliers à cordons. Cette humiliation gêna Frédéric. Il reculait à faire son aveu. Enfin il s'écria, comme saisi par une idée.
« Ah, saprelotte, j'oubliais. »«
Quoi donc ?»«
Ce soir, je dîne en ville. »«
J'ai les dents ambreuses ? Pourquoi ne m'en parles-tu jamais dans tes lettres ?»«
Ce n'était pas chez les dents ambreuses, mais chez les Arnoux. »«
Tu aurais dû m'avertir, » dit Deslauriers.
« Je serais venu un jour plus tard. »«
Impossible, » répliqua brusquement Frédéric. « On ne m'invitait que ce matin, tout à l'heure. » Et pour racheter sa faute et en distraire son ami, il dénoua les cordes emmêlées de sa malle, il arrangea dans la commode toutes ses affaires, il voulait lui donner son propre lit, couché dans le cabinet au bois. Puis, dès 4 heures, il commença les préparatifs de sa toilette.
« Tu as bien le temps, » dit l'autre.
Enfin il s'habilla, il partit.
« Voilà les riches, » pensa Deslauriers.
Et il alla dîner rue Saint-Jacques chez un petit restaurateur qu'il connaissait. Frédéric s'arrêta plusieurs fois dans l'escalier, tant son cœur battait fort. Un de ses gants trop justes éclata, et tandis qu'il enfonçait la déchirure sous la manchette de sa chemise, Arnoux, qui montait par derrière, le saisit au bras et le fit entrer. L'antichambre, décorée à la chinoise, avait une lanterne peinte au plafond et des bambous dans les coins. En traversant le salon, Frédéric trébucha contre une peau de tigre. On n'avait point allumé les flambeaux, mais 2 lampes brûlaient dans le boudoir tout au fond. Mademoiselle Marthe vint dire que sa maman s'habillait. Arnoux l'enleva jusqu'à la hauteur de sa bouche pour la baiser. Puis, voulant choisir lui-même dans la cave certaines bouteilles de vin, il laissa Frédéric avec l'enfant. Elle avait grandi beaucoup depuis le voyage de Montereau. Ses cheveux bruns descendaient en longs anneaux frisés sur ses bras nus. Sa robe, plus bouffante que le jupon d'une danseuse, laissait voir ses mollets roses, et toute sa gentille personne sentait frais comme un bouquet. Elle reçut les compliments du monsieur avec des airs de coquette, fixa sur lui ses yeux profonds, puis, se coulant parmi les meubles, disparut comme un chat. Il n'éprouvait plus aucun trouble. Les globes des lampes, recouverts d'une dentelle en papier, envoyaient un jour laiteux et qui attendrissait la couleur des murailles tendues de satin mauve. À travers les lames du garde-feu, pareil à un gros éventail, on apercevait des charbons dans la cheminée. Il y avait, contre la pendule, un coffret à fermoir d'argent. Ça et là, des choses intimes traînaient. Une poupée au milieu de la causeuse, un fichu contre le dossier d'une chaise, et sur la table à ouvrage, un tricot de laine d'où pendaient en dehors 2 aiguilles d'ivoire, la pointe en bas. C'était un endroit paisible, honnête et familier tout ensemble. Arnoux rentra, et par l'autre portière, Madame Arnoux parut. Comme elle se trouvait enveloppée d'ombre, il ne distingua d'abord que sa tête. Elle avait une robe de velours noir, et dans les cheveux, une longue bourse algérienne enfilée de soie rouge qui, s'entortillant à son peigne, lui tombait sur l'épaule gauche. Arnoux présenta Frédéric.
« Oh, je reconnais monsieur parfaitement, » répondit-elle.
Puis les convives arrivèrent tous, presque en même temps, Dittmer, Le Varias, Burieux, le compositeur Rosenwald, le poète Théophile Loris, 2 critiques d'art, collègues du Sonnet, un fabricant de papier, et enfin l'illustre Pierre-Paul Mencius, le dernier représentant de la grande peinture, qui portait gaillardement avec sa gloire ses 80 années et son gros ventre. Lorsqu'on passa dans la salle à manger, Madame Arnoux prit son bras. Une chaise était restée vide pour Pellerin. Arnoux l'aimait tout en l'exploitant. D'ailleurs, il redoutait sa terrible langue si bien que, pour l'attendrir, il avait publié dans l'art industriel son portrait accompagné d'éloges hyperboliques. Et Pellerin, plus sensible à la gloire qu'à l'argent, apparut vers 8 heures, tout essoufflé. Frédéric s'imagina qu'ils étaient réconciliés depuis longtemps. La compagnie, les mets, tout lui plaisait. La salle, telle qu'un parloir au Moyen-Âge, était tendue de cuir battu. Une étagère hollandaise se dressait devant un râtelier de chibouk, et autour de la table, les verres de bohème diversement colorés faisaient au milieu des fleurs et des fruits comme une illumination dans un jardin.
il eut à choisir entre 10 espèces de moutarde. Il mangea du gazpacho, du curry, du gingembre, des merles de Corse, des lasagnes romaines. Il but des vins extraordinaires, du Liebfraueli et du Tokay. Arnoux se piquait effectivement de bien recevoir. Il courtisait en vue des comestibles tous les conducteurs de Malposte, et il était lié avec des cuisiniers de grandes maisons qui lui communiquaient ses sauces. Mais la causerie surtout amusait Frédéric. Son goût pour les voyages fut caressé par Dittmer, qui parla de l'Orient. Il assouvit sa curiosité des choses du théâtre en écoutant Rosenwald causer de l'opéra. Et l'existence atroce de la bohème lui parut drôle, à travers la gaieté du sonnet, lequel narra, d'une manière pittoresque, comment il avait passé tout un hiver, n'ayant pour nourriture que du fromage de Hollande. Puis, une discussion entre Levarias et Burieux sur l'école florentine lui révéla des chefs-d'œuvre, lui ouvrit des horizons, et il eut du mal à contenir son enthousiasme quand Pellerin s'écria « Laissez-moi tranquille avec votre hideuse réalité. Qu'est-ce que cela veut dire, la réalité? Les uns voient noir, d'autres bleu, la multitude voit bête. Rien de moins naturel que Michel-Ange, rien de plus fort. Le souci de la vérité extérieure dénote la bassesse contemporaine. Et l'art deviendra, si l'on continue, je ne sais quelle rocambole au-dessous de la religion comme poésie et de la politique comme intérêt. Vous n'arriverez pas à son but. Oui, son but, qui est de nous causer une exaltation impersonnelle, avec de petites œuvres, malgré toutes vos finasseries d'exécution. Voilà les tableaux de Bassolier, par exemple. C'est joli, coquet, propre et pas lourd. Ça peut se mettre dans la poche, se prendre en voyage. Les notaires achètent ça 20 000 francs. Il y a pour 3 sous d'idées. Mais sans l'idée, rien de grand. Sans grandeur, pas de beau. L'Olympe est une montagne. Le plus crâne monument, ce sera toujours les pyramides. Mieux vaut l'exubérance que le goût, le désert qu'un trottoir, et un sauvage qu'un coiffeur. Frédéric, en écoutant ces choses, regardait Madame Arnoux. Elle tombait dans son esprit comme des métaux dans une fournaise, s'ajoutait à sa passion et faisait de l'amour. Il était assis, 3 places, au-dessous d'elle, sur le même côté. De temps à autre, elle se penchait un peu, en tournant la tête pour adresser quelques mots à sa petite fille. Et comme elle souriait alors, une fossette se creusait dans sa joue, ce qui donnait à son visage un air de bonté plus délicate. Au moment des liqueurs, elle disparut. La conversation devint très libre. Monsieur Arnoux y brilla, et Frédéric fut étonné du cynisme de ces hommes. Cependant, leur préoccupation de la femme établissait entre eux et lui comme une égalité qui haussait dans sa propre estime. Rentré au salon, il prit par contenance